Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 16h à Nouakchott, 17h à Yaoundé. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Au Congo-Brazzaville, ouverture ce vendredi dans la capitale du 5e congrès ordinaire du PCT, le Parti congolais du travail au pouvoir, avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2021, scrutin auquel le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, devrait prendre part. Plusieurs milliers de membres et militants du PCT ainsi que des représentants des partis des pays amis tels que les partis communistes chinois et cubains, le MPLA, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola ou encore le Front patriotique rwandais, le FPR, prennent part aux travaux du Congrès qui se poursuivront jusqu'à lundi. Le principal enjeu de la réunion est la désignation d'un nouveau secrétaire général chargé de conduire le PCT jusqu'à la présidentielle. Pierre Ngolo, secrétaire général sortant, en poste depuis 2011, a été le seul à prendre la parole. Président du Sénat depuis 2017, M. Ngolo ne peut être candidat à sa propre succession, conformément au nouveau règlement du PCT daté de 2016 qui interdit le cumul de fonctions. Et puis en République centrafricaine, les affrontements meurtriers entre miliciens et commerçants armés mercredi et jeudi ont coûté la vie à au moins 30 personnes au quartier de PK5 à Bangui. Ce secteur majoritairement musulman est devenu l'une des zones les plus dangereuses de la capitale centrafricaine depuis 2014. Ni la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, ni les autorités centrafricaines ne contrôlent le PK5 et aucun bilan officiel des affrontements n'est encore disponible. Une partie du grand marché du PK5 a brûlé pendant les violences.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Algérie, c'est le 45e vendredi consécutif de manifestations hebdomadaires. Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues, notamment à Alger, même si les manifestants semblaient moins nombreux que d'habitude. Le point avec Abdourahmane Dia.
Comme chaque vendredi, la mobilisation a commencé juste après la fin de la grande prière hebdomadaire. Toutefois, elle semblait l'une des plus faibles depuis le début du Chirac, le mouvement populaire inédit et massif de contestation pacifique du régime, lancé le 22 février. Le nouveau président qui est entré en fonction le 19 décembre vit donc son deuxième vendredi de manifestation. Les manifestants interrogés ont affiché une certaine colère, mais aussi de la détermination à poursuivre le mouvement. Nous, on est là, on continue le combat, témoigne Hossine, fonctionnaire de 50 ans dans le cortège où sont brandis de nombreux portraits de Ramdan Abane, dirigeant politique historique du Front de Libération Nationale, assassiné il y a 72 ans, jour pour jour. Ce matin, bien avant la manifestation, les Algérois ont paru partagés sur la suite à donner au mouvement. Certains se sont montrés déterminés à continuer, d'autres se sont prononcés en faveur du dialogue ou de nouveaux modes d'action.
Algérie toujours, le HCS, le Haut Conseil de sécurité qui regroupe les plus importantes autorités civiles et militaires du pays, s'est réuni jeudi soir dans la capitale pour évoquer la situation aux frontières, notamment celle avec la Libye et le Mali. Selon un communiqué de la présidence algérienne, le HCR, présidé par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'une série de mesures à prendre pour la protection des frontières et la redynamisation du rôle de l'Algérie au plan international, particulièrement en ce qui concerne les dossiers Libye et Mali. L'Algérie possède près de 1000 km de frontières avec la Libye et près de 1400 km avec le Mali. Et puis au Rwanda, vague de mécontentement dans les bidonvilles de Kigali, la capitale. Les habitants de ces bidonvilles accusent les autorités de raser leurs maisons sans leur verser des compensations promises dans le contexte de vaste modernisation de la capitale rwandaise devenue une vitrine en Afrique saluée pour la sûreté et la propreté de ces rues. Les premières maisons ont commencé à être démolies en décembre à Nyarutarama, un quartier hébergeant les plus grands bidonvilles de Kigali qui côtoient des zones très aisées. Ma vie s'est subitement détériorée, explique Emmanuel Bayaoré, dont le logement détruit le 20 décembre avait été évalué à 28 millions de francs rwandais et qui n'a reçu finalement que 26 000 euros de compensation de la part du gouvernement. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez la Minute Éco sur VOA Afrique avec Nanit Salani. La Zambie prévoit d'obliger les sociétés d'extraction de cuivre à déclarer l'or qu'elles produisent, cherchant à augmenter les revenus de ces ressources minérales. Le secrétaire permanent du ministère des Mines, Barnaby Moulinga, a déclaré lors d'une conférence de presse que la Zambie, deuxième producteur de cuivre en Afrique, manque beaucoup de revenus car seule la mine de Kashanchi de Five Counties Minerals déclare sa production d'or. Le Gabon reçoit un prêt de 140 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour un projet routier qui comprend principalement la construction et le bitumage de la route Ndende-Dusala, longue de 49 km, et du pont frontalier entre le Gabon et le Congo sur la rivière Ngongo, annonce l'agence Ecofin. Le projet permettra aussi la construction et le bitumage d'environ 21 km de voirie à Libreville, au bénéfice de plus de 100 000 personnes. Pour terminer, Huawei veut aider l'Égypte à développer ses industries pétrolières et gazières par la technologie. Pour cela, l'entreprise chinoise a organisé le premier sommet Huawei Egypt Oil and Gas en Égypte, où elle a présenté des solutions innovantes technologiques telles que les centres de données cloud et le réseau de transmission.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur VOA Afrique.
Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive.